L'homme le plus écouté de France vous présente le journal. Bonjour Marc Fauvel.
Bonjour Rennes, bonjour à tous. À la une ce matin, des migrants jugés à distance et par visioconférence, l'état de droit bafoué. Les associations s'alarment de la situation dans un centre de rétention près de Toulouse. Avant-goût, disent-ils, de ce qui attend les migrants après la réforme. Des témoignages sont accablants, ils viennent contredire la version de la conductrice du car scolaire de Millas. Plusieurs témoins affirment qu'elle aurait franchi les barrières alors qu'elles étaient fermées, provoquant l'accident le mois dernier. Des milliards annoncés pour la Grande Muette, Emmanuel Macron devrait aligner l'échec ce matin lors de ses vœux aux armées. Mais il en faudra sans doute plus pour mettre fin au blues des militaires. À 8h20, retour à Rennes, où vous vous trouvez ce matin Nicolas Demorand, à l'occasion des Assises de la Citoyenneté, dont France Inter est partenaire. On s'interroge ce matin sur ce qui nous unit, ce qui fait tenir la société française, et on en parle bien sûr avec vos invités.
Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Nathalie Appéré, madame la maire de Rennes, présidente de l'Agence nationale de l'habitat. Mes questions donc à 8h20, les vôtres vers 8h40, 01 45 24 7000. Et évidemment, des micros circuleront ici dans la salle.
Dans ce journal également, le mouvement des prisons qui se durcit ce matin. Affrontement en cours à Fleury-Mérogis. Les conducteurs du métro parisien en grève contre les violences liées au trafic de drogue. Les suites de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Mais qui va garder les terres agricoles? Et puis les mots de Robert Redford face au scandale sexuel qui éclabousse Hollywood. Nous sommes à un tournant, le mouvement des femmes est inévitable. On l'écoutera à la fin de ce journal. Des migrants jugés par visioconférence, sans avocat, sans public, alors même qu'ils sont maintenus en centre de rétention. La scène se répète ces derniers temps au centre de rétention de Cornebarieux près de Toulouse. Et elle provoque l'indignation de plusieurs associations et du syndicat de la magistrature. Justice hors la loi, disent-ils, car le Conseil constitutionnel a déjà tranché cette question, estimant qu'on ne peut pas juger leur cas dans ces conditions. Julie Pietri.
Une cour d'appel qui juge un homme, deux hommes, quatre même à distance par visioconférence. Les hommes en question n'ayant jamais quitté leur centre de rétention. Léo Clos, c'est le coordinateur des équipes de la CIMADE, spécialisée dans le droit des étrangers à Cornebarieux.
Il y a des audiences qui se déroulent dans une salle à l'intérieur du centre de rétention, en contravention totale avec un arrêt de la Cour de cassation. Il y a une publicité des débats qui normalement est prévue. Or là, ce n'est pas le cas, puisque c'est à l'intérieur d'un lieu de privation de liberté que la porte d'entrée du centre de rétention est fermée. C'est déplorable l'image de la justice que l'on donne à travers ce genre d'audience.
L'avocat de deux des hommes jugés ainsi raconte qu'il n'a pas pu s'entretenir avec ses clients puisqu'il était à distance, qu'il les entendait très mal et que leur image même sur la télévision était floue. Les deux cours d'appel qui ont travaillé ainsi, Bastia et Toulouse, parlent de procédures légales, d'audiences sans incident, rendues nécessaires à cause de policiers en sous-effectif dans l'incapacité d'escorter les personnes jusqu'à la cour. Laurence Roch, présidente du syndicat des avocats de France, est pourtant catégorique.
Il faut qu'il y ait une séparation géographique entre le centre de rétention et la salle d'audience. On ne peut pas imaginer qu'une salle d'audience se trouve dans les lieux de l'adversaire. Ça n'est pas possible.
Elle réclame la fin de ces pratiques, demande aux avocats concernés de ne pas accepter d'y participer. Des pourvois en cassation sont envisagés.
Reportage signé Julie Pietri. Les gardiens de prison maintiennent la pression sur le gouvernement. Quatrième journée de blocage alors que les négociations avec le ministère de la Justice piétinent et que de nouvelles formes d'action font leur apparition. Des épidémies d'arrêt de travail sont signalées dans plusieurs établissements. Ce matin, la situation est tendue devant la prison de Fleury-Mérogis près de Paris, avec des incidents signalés entre gardiens de prison et forces de l'ordre qui venaient extraire des détenus pour les amener au tribunal. Que s'est-il passé le 14 décembre dernier à Millas, dans les Pyrénées-Orientales? La collision entre un car scolaire et un TER avait coûté la vie à 6 collégiens sur un passage à niveau. Les barrières étaient ouvertes, a toujours affirmé la conductrice, mais sa version est sérieusement contredite par de nouveaux témoignages recueillis par les gendarmes dans un rapport que nos confrères de France Info ont pu consulter. Delphine Gauthier.
Il y a surtout deux témoignages. Ceux des occupants d'un Citroën Jumpy à l'arrêt de l'autre côté du passage à niveau. Deux techniciens de la SOR, le groupe spécialisé dans la distribution de l'eau, et entendus par les gendarmes le jour même du drame. Leurs récits sont identiques. Le conducteur raconte qu'à l'approche du passage à niveau, il voit le feu se mettre à clignoter, les deux barrières s'abaisser de chaque côté et trois bus qui arrivent en face. « J'ai vu le premier bus », explique cet homme aux enquêteurs, qui ne s'arrêtait pas à la barrière. « Je suis formel », surenchérit son collègue. Le bus conduit par une femme a forcé le passage à niveau alors qu'il était fermé. Les deux hommes décrivent ensuite des scènes terribles. « J'ai vu le bus s'ouvrir en deux », décrit le conducteur. « Le pare-brise a été projeté dans notre direction. J'ai entendu des gosses hurler. » D'autres témoignages dans le dossier évoquent des barrières baissées. Le conducteur du TER et sa stagiaire et une collégienne dans le bus qui est au premier rang. Elle dit également que la quasi-totalité des élèves n'avaient pas mis leur ceinture de sécurité.
Trop de toxicomanes sur les quais du métro à Paris. Les conducteurs de la ligne 12 sont appelés à la grève aujourd'hui après une série d'agressions liées au trafic de drogue. Consommateurs et dealers ont trouvé refuge dans plusieurs stations où certains conducteurs, du coup, ne marquent même plus l'arrêt. Reportage Farida Noir.
Ligne 12 dans le nord de Paris, à la station Marcadet-Poissonnier, un couple sort de la rame avec une pipe à crack allumée, ce qui n'étonne plus Henri, un voyageur.
Ils ont l'air assez stone, ils ont l'air assez... À l'est, quoi. Et en général, ils sont assis sur des sièges voyageurs où ils longent les quais ou les couloirs et des fois, ils peuvent être menaçants.
Des dealers, des toxicomanes qui se piquent sur le quai, fument dans les rames, tombent sur les voies. C'est le quotidien des conducteurs de la ligne 12 qui viennent travailler la boule au ventre, comme Alain Le Luron, délégué du personnel UNSA. Samedi dernier, il n'a pas eu le choix, il ne s'est pas arrêté à cette station.
Je savais que j'allais donc repasser quelques minutes plus tard sur le quai en sens inverse. J'ai donc appelé le chef de régulation pour l'informer de la situation, parce que c'était des cris, des rixes, des bousculades. Lorsque je suis reparti en direction de Méridici, le chef de régulation donc pouvait pas me dire si la station avait été sécurisée. Et c'est donc pour ça que je l'ai informé que je ne desservirais pas la station Marcadet-Poissonnier pour des raisons de sécurité pour mes voyageurs.
De son côté, la RATP insiste sur la présence policière et celle des agents de sécurité dans les stations. Insuffisant pour le syndicat UNSA et l'association SOS Usagers qui demande aujourd'hui au pouvoir public et à la RATP de prendre des mesures urgentes.
Elle n'a pas survécu à ses blessures. La fillette de 6 ans, hospitalisée d'urgence à Bourges il y a 3 semaines pour des faits de maltraitance présumée, est morte hier. À son arrivée sur place, elle présentait des traces de coups, de morsures, de brûlures. Depuis son hospitalisation, sa mère et le compagnon de celle-ci qui avait pris la fuite ont été arrêtés et mis en examen. Il s'était quitté fâché l'été dernier. Emmanuel Macron va tenter de se rabibocher aujourd'hui avec les militaires. 6 mois après la démission surprise du chef d'état-major des armées qui avait critiqué la baisse du budget. C'est à Toulon que le chef de l'État présentera ce matin ses vœux aux armées à bord du Dixmu, d'un bâtiment de la marine. Fini le temps des économies, le président promet maintenant de cajoler les militaires avec un budget qui va grimper chaque année d'1,8 milliard d'euros jusqu'à la fin du quinquennat. L'argent c'est bien, c'est même indispensable, mais les cicatrices ne sont pas encore refermées. C'est Bénédicte Chéron qui le dit, elle est spécialiste des armées.
Quand un militaire français se lève tous les matins pour aller travailler ou est en opération extérieure, ou intérieur d'ailleurs pour l'opération Sentinelle, il ne parle pas de la démission du général de Villiers tous les jours, il fait son travail. Il n'en demeure pas moins que beaucoup de retours montrent que à tous les échelons de la hiérarchie, et peut-être plus encore en bas de la hiérarchie et auprès des sous-officiers, cette démission elle reste dans les mémoires parce que ça a été vécu comme un moment de plus où les militaires ont eu l'impression finalement que les responsables politiques, et donc la nation avec les responsables politiques, n'avaient pas forcément conscience de ce qui faisait l'engagement qu'ils ont pris en acceptant de servir la nation par les armes. C'est toute la vie des soldats qui est concernée. Bien sûr, il y a la question de la conciliation avec la vie de famille, mais on se rend compte encore une fois, il y a des instances au sein des armées qui ont publié des rapports, et notamment un rapport l'été dernier qui montre que vraiment pour les soldats, le cœur de leur inquiétude, c'est les moyens qu'on leur donne pour remplir leur mission quand ils sont en opération.
L'historienne et spécialiste des armées, Bénédicte Chéron, elle était ce matin l'invitée du 5-7 de France Inter. Voilà qui devrait redonner des ailes à Vinci, qui vient de perdre le chantier de Notre-Dame-des-Landes. Le groupe, qui gère déjà l'aéroport de Nantes-Atlantique, vient d'y enregistrer une année record trafic passager en hausse de 15% l'an dernier. La tendance est la même à Rennes, géré lui aussi par Vinci, où le nombre de passagers a augmenté de 13%. Et parmi les questions qui se posent désormais, il y a aussi l'avenir des 1600 hectares de la ZAD. Qu'en faire? Les redistribuer, comme l'a dit Édouard Philippe, pour leur rendre leur vocation agricole. Mais à qui les zadistes, Sandy Dauphin, aimeraient bien avoir leur part?
Il faudra sans doute plusieurs années pour répartir ces terres, tant le puzzle est compliqué. Il y a d'abord les agriculteurs expropriés qui peuvent vouloir revenir s'ils rendent leurs indemnités. Il y a aussi les agriculteurs qui ne sont jamais partis malgré les avis d'expulsion. C'est le cas de Sylvain Fresneau, éleveur bovin.
On était vraiment bloqués au niveau des investissements sur l'exploitation. Là, on est enfin libérés, on va pouvoir améliorer les bâtiments, investir vraiment pour continuer à vivre correctement.
Des zadistes aussi veulent rester pour mener des projets agro-environnementaux, certains plutôt classiques comme du lait bio, d'autres plus expérimentaux.
Si les gens ont envie de continuer à faire de la paysannerie ou d'ailleurs d'autres projets d'activité de manière plus collective, pas dans des cadres salariés classiques, pas dans de la vente marchande classique, mais sous d'autres formes. L'ensemble du mouvement a envie que ça continue à être possible aussi.
Pourquoi pas, mais sous certaines conditions, dit le maire de Notre-Dame-des-Landes, Jean-Paul Naud estime qu'après redistribution des parcelles aux anciens propriétaires, il resterait environ 500 hectares à répartir.
Il va falloir qu'on se mette autour d'une table pour discuter. Je sais qu'il y a certains zadistes qui sont là depuis longtemps, qui sont prêts à rester. Moi, j'y suis pas complètement opposé si ce sont des gens non violents et si dans l'avenir, ils respectent les lois et règlements. Quand on loue des terres, on paye le fermage, on paye son eau, on paye son électricité. Donc, il va falloir respecter les lois et les règlements.
Et la Chambre d'agriculture veut avoir son mot à dire.
Et après Nantes, direction Rennes. À présent, on reste dans l'Ouest pour cette journée spéciale consacrée au vivre ensemble à l'occasion des Assises de la citoyenneté dont France Inter est partenaire. Qu'est-ce qui nous rassemble? Comment recréer du lien entre nous et autour de nous? Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Vous vous êtes rendu dans le Finistère à la rencontre d'une association, elle s'appelle Rêve, constituée de parents dont les enfants ont été placés en famille d'accueil, souvent parce qu'ils sont en grande difficulté. Eh bien, ils ont décidé de s'entraider.
L'histoire n'est pas celle que vous pourriez croire.
On arrive chez Lucille, qui a deux enfants placés.
Lucie, qui habite Bonjour. Quimper, ne maltraite pas ses enfants. D'ailleurs, seuls 5% des gamins placés sont battus. Les autres ont des parents en grande difficulté économique ou qui se déchirent. Précisément, Lucie, 29 ans, victime de violences conjugales, a fui son domicile sans ses enfants. Séparation trop conflictuelle, les services sociaux ont placé les petites filles de 2 et 8 ans en famille d'accueil rude pour Lucie.
Quand on les a placés, on nous a pas expliqué dans combien de temps on les renvoyait en fait. On vous dit juste les week-ends et une partie des vacances. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont mettre en place en fait les week-ends. On se retrouve dans une situation dans laquelle c'est pas nous qui devrons y être. C'est pas parce que votre enfant est placé que vous êtes un mauvais parent.
Lucie s'est tournée vers Rêve, réapprendre à vivre ensemble, dont Francis Roudel est président, lui-même papa d'une enfant placée. Son objectif, faire de la médiation dans des procédures très longues. Exemple.
Pour cette famille-là, ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas mangé avec leur enfant. Ils les voyaient en lieu neutre, mais c'est de 14h, 16h. Est-ce qu'on pourrait pas leur donner un 11h, 13h ou un midi, 14h? Et j'ai réussi avec les services du lieu neutre, on est passé au domicile, en surveillance le samedi, et après les week-ends, et après la moitié des vacances scolaires.
Lucie, elle ne voit ses enfants que 2 heures tous les 15 jours, accompagnée d'une éducatrice. Elle aimerait les retrouver totalement dans l'année.
Merci Béatrice, en direct de Rennes. On retournera bien sûr à la fin de ce journal. Ce sera le temps fort de sa visite au Pérou. Le pape François va se rendre aujourd'hui en Amazonie. Incursion à la rencontre des peuples indigènes spoliés de leurs terres. Ils ont prévu lui offrir un arc et une flèche pour qu'il les aide dans leur combat. En échange, le pape leur remettra son encyclique sur le climat. Et avant d'arriver au Pérou, le pape François était au Chili hier, où il n'a pas réussi à éteindre totalement la polémique sur la passivité de l'Église face aux prêtres pédophiles. Mathilde Imberti était sur place.
Le pape François, par sa visite, aura-t-il redonné un peu de crédit à l'Église chilienne? L'avenir le dira. En tout cas, le chef de l'Église catholique est resté sur une ligne très défensive sur la question des abus sexuels. Interrogé sur le cas de l'évêque Barros, un prélat soupçonné d'avoir couvert le prédateur sexuel le plus connu du Chili, le père Caradima, le pape a répondu sèchement aux médias hier.
Le jour où vous m'apporterez une preuve contre l'évêque Barros, je vous parlerai. Il n'y a pas une seule preuve contre lui, tout est calomnie, c'est clair?
L'évêque Barros est en poste dans un diocèse important du Chili malgré le tollé qu'a déclenché cette affaire et il s'est affiché aux côtés du pape François durant tout le séjour chilien du souverain pontife. Le scandale Caradima a coûté cher à l'église chilienne, celle du Pérou où le pape a atterri hier soir n'est pas exempte de reproches. Le Vatican vient de mettre sous tutelle une fondation catholique dont plusieurs membres sont accusés d'abus en série. À Lima au Pérou, Mathilde Imberti, France Inter.
En bref, le retour des Thalys. Ce matin, entre la France et la Belgique, le trafic avait été interrompu hier en raison de la tempête qui vient de balayer le nord de l'Europe. Elle a fait 9 morts au total, dont 6 en Allemagne. C'est le rendez-vous du cinéma indépendant. Le festival de Sundance aux États-Unis a ouvert ses portes hier soir en présence de celui qui l'a lancé il y a 3 décennies, Robert Redford. Et impossible d'y couper, bien sûr, en ce moment, surtout dans le monde du cinéma. L'affaire Weinstein était sur toutes les lèvres. À Sundance, Valérie Cantier.
Harvey Weinstein n'est pas à Sundance, mais ici, l'ombre du producteur indépendant plane. Weinstein était un habitué de Sundance. D'ailleurs, 2 femmes au moins l'accusent de les avoir agressées lors du festival par le passé. Alors Robert Redford, qui a fondé le festival il y a 33 ans, n'a pas échappé, bien sûr, aux questions sur le sujet lors du lancement de l'événement.
Je pense que Harvey Weinstein et d'autres hommes accusés comme lui représentent une certaine époque et que nous allons avancer maintenant. Il ne va pas tuer le spectacle.
Depuis les nombreuses affaires de harcèlement et agressions sexuelles révélées ces quatre derniers mois, le monde du cinéma vit un profond changement, notamment via les mouvements MeToo et Time's Up, promus par des actrices de premier plan. Robert Redford.
On est à un moment crucial. Les choses changent. Les femmes vont avoir plus de voix alors qu'elles n'en avaient pas à cause du contrôle et de la domination masculine. Et le fait que les femmes vont exercer de plus en plus de pouvoir est merveilleux. Ce que les hommes ont de mieux à faire, c'est de les écouter.
Plusieurs films réalisés par des femmes, des débats sur les femmes dans le cinéma et une manifestation de femmes sont au programme cette année. Au Festival de Sundance, Valérie Cantier, France Inter.
Un festival qui a également mis en place un code de bonne conduite à l'égard des femmes, c'est à lire sur franceinter.fr. Le journal L'Équipe n'en peut plus des plans sociaux. Les salariés du quotidien sont appelés à la grève aujourd'hui contre la suppression de 26 emplois. C'est le quatrième plan social en 5 ans au sein du journal. Le tennis cette nuit à Melbourne, 3e tour de l'Open d'Australie, c'est fini pour Alizé Cornet, battue par la Belge Elise Mertens en 2-7. Le choc du jour, ce sera dans 3 quarts d'heure maintenant le match entre Joe Wilfried Tsonga et l'Australien Kyrgios. Enfin, il était né en Angleterre, mais c'est à la France et surtout à la Provence qu'il avait consacré ses principaux livres. L'écrivain britannique Peter Mayle est mort à 78 ans, auteur de plusieurs best-sellers, dont le plus célèbre, Une année en Provence, qui racontait justement son arrivée dans sa région d'adoption. Pour vous, c'est plutôt Rennes ce matin, la région d'adoption. Nicolas, on vous retrouve sur place, tout va bien ?
Oui, Marc, tout va très très bien, j'y suis, j'y reste.
Vous avez raison.
Je ne sais pas si on se reverra lundi à Paris. D'ici là, je vous embrasse.